Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On continue avec ce grand mystère de l'Église, duquel on s'approche avec humilité et puis grande attention, parce que c'est quelque chose qui nous est révélé, qui a été pensé par le Père. Et la dernière fois, on a vu que ce rassemblement du peuple de Dieu commence au moment où le péché a détruit la communion des hommes. Donc on est dans cette période où Dieu rassemble après le péché le peuple. Est-ce qu'on a des signes de cette réunification? Est-ce qu'on peut savoir qu'elle est en train de se réaliser, cette réunification du peuple autour de Dieu?
Oui, très régulièrement, on voit des signes positifs où les hommes préfèrent leur unité à la division. Ils préfèrent émettre des lois soit locales, soit nationales, avec une nation qui se dessine, soit même internationales, des lois qui permettent de réguler les rapports humains, qui peuvent être conflictuels, puisque les biens terrestres ne sont pas distribués de la même façon sur la surface de la Terre. Et cette distribution doit se faire toujours avec justice et paix. Et de ce point de vue-là, on voit que en toute nation, Dieu tient pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Acte 10, 35. Et on voit bien donc qu'il y a un désir de justice chez l'homme, un désir qu'il faut reconnaître comme étant bon, puisque Dieu est juste. Dieu seul est parfaitement juste, c'est vrai, mais il nous donne déjà de goûter à ce désir d'équité, à ce désir d'ajustement à sa volonté, qui est bien exprimé dans les différents textes de la Première Alliance, et encore plus dans ceux de la Nouvelle Alliance. Et c'est à cette école donc de la sainteté de la justice de Dieu qu'on avance le plus vite.
Alors, on disait que l'Église, c'était le numéro 759, se réalisait graduellement au long des étapes de l'histoire humaine. Donc ça, on a vu qu'il y avait plusieurs verbes qui manifestaient, qui caractérisaient cette réalisation graduelle de l'Église. Il y a eu la préfiguration en Dieu, ensuite il y a eu la préparation dans l'Ancienne Alliance. Et dans cette préparation, il y a une autre distinction qui se fait. Le numéro 762 parle d'une préparation lointaine et d'une préparation immédiate. Est-ce que tu peux développer, expliquer la différence entre cette préparation lointaine et cette préparation immédiate?
Alors, par derrière, ce sont les alliances, finalement, qui sont énumérées ainsi. On a l'alliance d'abord avec Noé, comme on a pu expliciter les textes d'Irénée, alliance avec Noé, puis alliance avec Abraham, alliance avec Moïse, puis alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on peut dire que la préfiguration, c'est l'alliance avec Noé qui rassemble dans l'arche ce qui peut être sauvé, hein, par rapport à Babel où tout s'était éclaté d'une certaine manière. C'est l'antithèse de Babel, l'arche de Noé, parce que c'est vraiment un lieu de rassemblement et de communion. Et il y a quelque chose de plus fort, parce que les lois noachiques que les Juifs essayent de découvrir en scrutant leur écriture et à travers leur texte du Talmud, ils parlent de cette loi noachide. Moi, j'ai regardé de près leur texte. Il n'y a aucune justification de ces sept lois noachides vraiment qui appèrent du texte même de l'écriture. C'est un peu sortes de élucubrations talmudiques, si vous voulez. Donc en fait, ces lois noachides, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Nous avons une meilleure définition. Nous parlons de la loi naturelle. C'est-à-dire, il y a, dit saint Paul, une conscience de ce qui est droit, de ce qui est juste par rapport à ce qui est mauvais et qui doit être évité. Donc poursuit la justice, poursuit la paix et recherche-la, dit le psaume. Il y a donc cette préfiguration qui est suivie par une préparation lointaine avec l'alliance avec Abraham. Abraham commence au chapitre 15 avec cette alliance très universelle qui n'implique pas encore, je dirais, la circoncision qui n'apparaît qu'au chapitre 17. Et nous savons que l'Église se retrouve beaucoup dans ce chapitre 15 de la Genèse qui semble être comme une annonce prophétique de ce que sera l'Église greffée sur le tronc d'Israël, donc sur le tronc d'Abraham. Mais en attendant, pour une préparation, je dirais, plus immédiate, il a fallu rentrer dans la chair avec la circoncision d'Abraham et le peuple d'Israël qui va, génération après génération, préparer l'âge du Christ. C'est-à-dire, il y a comme toutes ces générations, les textes de la naissance de Jésus dans saint Matthieu et dans saint Luc montrent toute cette préparation de génération pour arriver à la Vierge Marie, pour arriver à saint Joseph, pour arriver à l'enfant Jésus. Et on peut comprendre donc que la préparation lointaine, c'est ce double projet qui est marqué en Genèse chapitre 15 et Genèse chapitre 17 avec cette préparation donc abrahamique, mais qui reste un peu à cheval entre les deux options, qui est sans la circoncision ou avec la circoncision, et puis finalement la préparation immédiate où c'est vraiment l'élection d'Israël dans la chair avec toutes ses institutions, le temple, les sacrifices, la circoncision, la cache-route, etc., et qui arrive à Jésus. Jésus l'a subi, tout cela l'a vécu. On dit qu'il est né d'une femme selon la loi, en chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Donc Jésus a accepté pleinement cette préparation, je dirais, immédiate, et l'a vécu pour apporter finalement le dépassement de cette préparation immédiate. C'est l'alliance nouvelle que le Christ a instituée, dit Lumen Gentium, au numéro 9, d'ailleurs, qui est cité dans ce numéro 762 à la fin. Cette alliance nouvelle, le Christ l'a instituée. Donc on comprend bien qu'il y a préfiguration, par exemple, avec Abel. On dit « Ecclesia ex Abel », disait le père Congar, en retrouvant quelques textes des pères. Donc l'Église, déjà commençant préfigurée dès Abel, le juste qui est tué, et puis préparée d'une manière lointaine avec Abraham et les premiers patriarches, avec leur exil en Égypte, leur retour en Terre Sainte, ce long cheminement d'une famille. On reste encore à l'Église, je dirais, familiale, mais le mot famille sera repris aussi comme un bon descriptif de ce que l'Église, famille de Dieu, était déjà dit au numéro 759. C'est un beau titre de l'Église, mais les patriarches ont vécu quelque chose de l'ordre de la famille. Et cette famille qui avance pas à pas dans ces étapes, eh bien, nous avons chacun à le redécouvrir dans notre vie. Ce qui s'est passé lointainement est encore valable pour nous spirituellement. Nous avons toujours la possibilité d'être comme Abraham errant, allant de lieu en lieu et suivant le dessein d'amour bienveillant de Dieu. Donc préparation immédiate, c'est l'installation de préfiguration, de copie de ce qui sera plus définitif avec l'Église, mais qui est déjà quelque chose de très grand, puisque le temple nous donnait la présence de Dieu, la Shérina. Il y avait déjà la présence de Dieu qui habitait sous la tente et puis dans le temple, dans le Saint des Saints en Israël. Donc beaucoup de choses étaient déjà données, mais c'est vrai, cette préparation immédiate ne donnait pas encore l'image directe de que sera Jésus, qui est l'image directe de Dieu et qui est accessible depuis son incarnation.
Donc on a intérêt à lire dans l'Ancien Testament tous ces passages qui parlent d'Israël, parce que c'est un signe de ce rassemblement futur que sera l'Église. Enfin, ça nous dispose, ça nous prépare à mieux connaître et mieux découvrir ce que va faire Jésus lui-même.
Exactement. On peut relire tous les textes de l'Ancien Testament d'une manière typologique, de bien comprendre que comme on y voit les ombres et les copies avant d'arriver à l'image de Dieu qu'est Jésus, image du Père, eh bien, on peut déjà, dans ces types, ressentir eh bien, ce qui sera l'antitype qui est Jésus lui-même. Mmh. Et les pères de l'Église nous ont appris, en voyant le mot « Israël » dans la première alliance, tous les textes où le mot « Israël » apparaît, à penser aussitôt l'Église. Mmh. Hein, c'est très très beau de lire du coup le récit par exemple de Jacob en prévision de ce que sera l'Église. On peut se concentrer sur un personnage biblique et essayer de tout relire son histoire dans le livre de la Genèse, par exemple, à partir du chapitre 27 et suivant, on voit tout le cycle de Jacob, et dedans, ben, on dit, ben, tiens, ça, c'est déjà Jésus qui prépare quelque chose et qui nous émerveille, parce que nous-mêmes, nous le vivons d'une certaine manière, parce que tout est donné une fois pour toutes, et nous revivons nous-mêmes ces étapes et ces moments de préfiguration, de préparation lointaine, de préparation immédiate. Notre vie religieuse aussi est marquée par des étapes, et nous savons bien que nous avons besoin quand un religieux, par exemple, fait un postulat, ben, il voit que ce n'est pas encore le noviciat, il voit que ce n'est pas encore les vœux simples, il voit que ce n'est pas encore les vœux définitifs. Et puis, même quand on est arrivé aux vœux définitifs, on sait bien que ce qui compte en définitive, c'est le face-à-face final avec notre Seigneur.
Mmh. Alors, donc, c'est une proposition qui est faite à nos auditeurs de relire ces passages de l'Ancien Testament, mais c'est même accepter d'entrer dans la pédagogie de Dieu que d'y entrer. Donc on ne perd pas son temps. Dieu a voulu prendre ce temps-là pour nous montrer comment se réaliser son Église. Donc il y a une patience à avoir et à accepter d'entrer dans cette pédagogie divine.
Merci.
Merci, frère Edouard.